Le magazine des Nations Unies.
Comment préserver la paix en République démocratique du Congo à la date du 19 décembre? Le bureau conjoint Nations Unies entame des contacts avec les représentants des partis politiques, mais également de la société civile. Les détails, c'est dans cette édition. Interdiction des manifestations en RDC. Un des experts de l'ONU disent non et demande au gouvernement congolais de revenir sur cette mesure. Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. L'UNESCO appelle à un engagement collectif pour créer un environnement libre et sûr pour les journalistes. Enfin, le programme alimentaire mondial, PAM, n'est pas que spécialisé dans l'assistance alimentaire. Il organise également des services logistiques. La chargée de la logistique de cette agence nous en dira un peu plus dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme entame des contacts avec les différents acteurs politiques et de la société civile. Objectif, préserver la paix en RDC à la date du 19 décembre. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce mercredi à la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Madame Barbara Massakoni est les coordonnatrices de l'unité rapport et enquête spéciale du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les propos de Barbara Massakoni sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Après, il y a tout un travail de prévention que nous faisons avec des réseaux de prévention, avec un monitoring à l'avance. Il y a les bons offices qui font d'autres composantes de la MONUSCO qui est peut-être moins évident aux yeux de tout le monde, mais qui est là et qui est très important. Et pour le 19, comme on l'a fait pour le 19 décembre, comme on l'a fait en d'autres occasions, c'était des dates importantes qui réveillaient un peu des esprits, des mauvais esprits et des mauvais souvenirs. On va mettre en place des teams de monitoring bien avant. On va essayer de parler avec les représentants des partis politiques, avec la société civile, pour que tout se passe dans le calme et dans le respect des droits de l'homme. Parce que c'est important que tout le monde pourra exprimer leurs opinions vis-à-vis certaines dates qui expirent et certains moments importants de la vie des Congolais.
Toujours dans les chapitres des élections, des experts des droits de l'homme de l'ONU exigent la fin de l'interdiction des manifestations en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié jeudi dernier à Genève, ils estiment que les droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique et d'association sont des droits fondamentaux garantis par le droit international. Jean-Pierre Elali Coco.
Un groupe d'experts des droits de l'homme des Nations Unies a appelé les autorités de la République démocratique du Congo à lever une interdiction qu'ils jugent injustifiée de manifestations dans la capitale, Kinshasa, indique un communiqué. Une interdiction faite en septembre dernier après une série de grandes manifestations qui ont fait des dizaines de personnes tuées et de blessées. Selon les experts des droits de l'homme, le droit à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique et d'association sont des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces droits ne peuvent être limités que dans des circonstances très précises et étroitement définies, déclare-t-il. Or, souligne le communiqué, la situation actuelle en RDC ne justifie pas l'interdiction générale des manifestations dans certaines villes. Le pays se trouve dans une période électorale. Les citoyens devraient avoir davantage d'espace pour exprimer leur liberté fondamentale, précise les experts.
Du côté de la RDC, la police nationale congolaise rappelle dans un communiqué publié jeudi qu'elle ferait observer la mesure d'interdiction de manifestations politiques prise par les autorités. L'UNESCO appelle les gouvernements et la société civile à plus d'engagement pour créer un environnement libre et sûr pour l'exercice du métier de journaliste dans le monde. C'était à l'occasion de la célébration le 2 novembre dernier de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Alors Jean-Pierre Elali Coco nous fait l'essentiel du message de Madame Irena Bokova et les directrices générales de l'UNESCO.
Dans son message, la directrice de l'UNESCO condamne l'assassinat de plus de 800 journalistes depuis 2006. Et selon elle, moins de 7% seulement de ces crimes ont été élucidés. J'appelle les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour traduire les auteurs de ces crimes devant la justice, déclare-t-elle. Protéger les journalistes et garantir une presse libre est essentiel pour le développement des sociétés et important pour permettre à chaque femme et à chaque homme d'exercer leur droit d'accès à l'information, leur droit de participer en tant que citoyen en démocratie ou de travailler pour le droit au développement et estime pour sa part, Franck Larue, sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et l'information, dans une lettre ouverte adressée à cette occasion. Pour lui, le journalisme, c'est ce qui permet aux citoyens d'exercer leurs droits et de s'informer, leurs droits de savoir et leurs droits de s'assurer de l'obligation de leurs dirigeants à rendre des comptes. Chaque fois qu'un journaliste fait l'objet d'une agression, menace, harcèlement ou assassinat et qu'il n'y a pas d'investigation, c'est une invitation à davantage de violence, affirme-t-il. C'est pourquoi Mme Bokova encourage chacun à se tenir aux côtés de l'UNESCO pour condamner chaque meurtre de journalistes, réclamer des enquêtes approfondies concernant ces crimes et exiger des condamnations appropriées à l'encontre de leurs auteurs. Pour rappel, la date du 2 novembre est l'anniversaire du meurtre de deux journalistes français au Mali en 2013, Ghislain Dupont et Claude Verlon. 4 ans plus tôt, plus de 30 journalistes avaient été assassinés dans le massacre de Maguindanao aux Philippines et aucun de deux cas n'a été encore élucidé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme alimentaire mondial PAM est spécialisé, comme vous le savez, dans l'assistance alimentaire, surtout dans les urgences. Pourtant, il organise aussi toute une armada des services logistiques. Et pour en savoir plus, Jean-Pierre Elalé reçoit aujourd'hui Madame Nadine Abemba. Elle est chargée de la logistique dans cette agence onusienne. Suivez plutôt leur entretien.
Madame Nadine Abemba, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean-Pierre.
Vous êtes assistante de la logistique au PAM. Tout le monde sait que le PAM est spécialisé dans l'assistance alimentaire dans les situations d'urgence. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement des services logistiques parce que les gens oublient souvent que le PAM s'occupe aussi des services logistiques. Quels sont ces services logistiques dont on parle au PAM?
Merci, Monsieur Jean-Pierre Elalé. En République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial offre différents services logistiques dans les situations où le partenaire n'a pas la capacité ou le service n'est pas disponible sur le marché. Les services qu'on nous offre sont le transport routier, fluvial, lacustre. Nous avons le stockage, différentes sortes de stockage temporaire dans nos entrepôts et on peut aussi ériger des tentes mobiles en cas d'urgence. Nous avons aussi la manutention. PAM offre le service de manutention lorsque le matériel entreposé se trouve dans nos entrepôts. Nous avons aussi le dédouanement. On assiste différents partenaires dans le processus de dédouanement. Nous offrons la formation technique en logistique et en chaîne d'approvisionnement à nos partenaires qui sollicitent le besoin. Nous offrons aussi la fumigation. La fumigation, c'est une technique certifiée qui permet à ce que nous rendons en état différents vivres qui ont été attaqués par des parasites. Nous avons aussi comme autre service l'approvisionnement en carburant. Le PAM assiste différents partenaires en approvisionnement de carburant, mais cela seulement dans le cas d'urgence. Nous avons aussi, mais cela essentiellement à Goma, l'entretien des véhicules dans un de nos garages équipés et entretien des véhicules légers. C'est un peu ça, en gros, les services que offre le PAM.
Oui, madame, vous avez tout à l'heure là, parlé de la chaîne de froid qui était un nouveau service. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce service?
Voilà, c'est un peu notre bébé, notre nouveau bébé au niveau du PAM, la logistique du PAM. Nous offrons à nos partenaires humanitaires un service de transport et d'entreposage frigorifique. C'est-à-dire que nos différents partenaires, s'ils ont des produits sensibles qui requièrent une température assez spécifique entre 2 à 8 degrés, dans le PAM, avec nos appareils de haut niveau qui sont certifiés par le OCC, nous offrons le stockage de ces différents produits sensibles et aussi nous offrons le transport à partir de Kinshasa et aussi à partir de Goma de ces différents produits. Et cela dans nos glacières et cela durant 72 heures.
Mmh. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de transport. Et quels sont les différents moyens de transport que le PAM utilise et qu'est-ce que vous transportez notamment?
Le transport que le PAM utilise, on a le transport routier, par exemple d'un axe à un autre, de Kinshasa à Matadi ou de Businga à Guadolite.
Là, c'est dans les grands équateurs. Hein?
Les grands équateurs.
Oui.
Nous avons aussi le transport fluvial, toujours par barge, donc de Kinshasa à Businga ou de Kinshasa à Lissala. Et de là, le cargo prend la route, donc de Businga à Guadolite. On fait le multimodal.
Ah, voilà. Donc, le multimodal, c'est les différents transports qu'on peut utiliser pour une seule marchandise. On peut prendre, par exemple, la voie fluviale et puis la route aussi.
Exactement.
Ah, voilà, il faut expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent. Vous avez beaucoup d'activités dans l'est du pays, notamment au nord et au sud Kivu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment est-ce que vous faites ces transports-là?
Essentiellement dans le transport routier de nord Kivu à nord Kivu et sud Kivu. Donc, livre à nous-mêmes, nous essayons de les acheminer d'un point à un autre et aussi nous assistons aussi nos différents partenaires à faire bouger leurs différents cargos dans les différents axes au nord Kivu et au sud Kivu.
Et en ce qui concerne les transports aériens, vous avez aussi des avions à vous-même?
Exactement. Le PAM a un service qui est UNAS. On a essentiellement 7 avions et UNAS est essentiellement pour les passagers et nos petits cargos.
Que moi, je suis un privé, je mets bien personnel et je voudrais les faire transporter. Est-ce que je peux utiliser aussi UNAS?
Non, malheureusement. UNAS est essentiellement pour la communauté humanitaire, les ONG gouvernementales, non gouvernementales et aussi le gouvernement. Donc, on prête assistance que à la communauté humanitaire, pas au privé.
Donc, pas au privé. Donc, c'est seulement un transport qui est réservé aux humanitaires.
Exactement.
C'est ça? Et alors, madame, mais dans tout travail, il ne manque pas d'inconvénients dans le travail que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu?
Bon, les difficultés sont assez nombreuses. C'est d'abord l'état de route, malheureusement. Donc,
c'est dans quelle partie du pays? C'est dans tout le pays?
Pratiquement partout. Dans le nord Kivu, le sud Kivu, le Tanganyika.
Oui.
Donc c'est parce qu'on utilise, nous utilisons les partenaires, les sous-traitants locaux. Et c'est leurs plaintes qui nous reviennent vers nous souvent. C'est, ils peuvent accepter un contrat, mais sur place, sur terrain, quand ils descendent, ils se rendent compte d'état de route. Ils le font quand même, mais avec beaucoup de risques. L'insécurité. Ça, c'est au nord et au sud Kivu, quand ils doivent déplacer différents cargos. Et la situation économique, donc la hausse du prix sur terrain, donc le carburant qui augmente, tout ça. Le climat n'est pas assez favorable.
Oh, voilà. Et vous travaillez avec des partenaires. Est-ce que vos services sont payants?
Oui.
Et comment vous le faites?
Non, c'est pas gratuit. Mais d'abord, je tiens à signaler, c'est que le PAM, avant de rendre service à un partenaire, il y a d'abord un protocole d'accord qui est signé. Et ce protocole d'accord n'oblige pas le partenaire à utiliser les services logistiques du PAM. Mais le protocole d'accord permet à ce que le partenaire puisse solliciter autant voulu ce service. Il sollicite le service du PAM, acheminer des vivres, bien un cargo, d'acheminer des cargos d'un tel endroit, par exemple, acheminer des motos de Kinshasa vers Guadeloupe. Nous, on présente aux partenaires la facture pro forma. On vous dit, regardez pour 100 motos pour Kinshasa vers Guadeloupe, regardez ce que vous devez payer. Et on le fait que si seulement si le partenaire approuve la facture. Le PAM préfinance l'opération, le transport. C'est après le service rendu, après que le partenaire à Guadeloupe réceptionne son cargo, que nous, on présentera la facture au partenaire. Et c'est après ça que le partenaire pourra nous payer après 30 jours.
Et vous n'enregistrez pas des plaintes de ce côté-là? Mais là, par exemple, s'il y a des produits qui s'abîment en cours de route, en cours du transport, est-ce que vous avez des plaintes de ce côté-là?
Je voudrais d'abord rappeler que le PAM, c'est un expert en logistique. Tout le monde connaît la réputation du PAM, mais ces genres de cas sont vraiment très rares. On est très médiculé et très, très professionnel.
Donc vous vous y connaissez, c'est ça?
Exactement.
Voilà, et Radio Kapi tient à vous remercier.
Merci de nous avoir reçus. Et aussi, je voudrais un petit mot pour ceux qui sont intéressés par le service logistique du PAM, de pouvoir nous contacter par courriel, par drc.log/service@wfp.org. Voilà.
Ok, voilà, l'adresse courriel électronique est donnée. En tout cas, madame, nous vous remercions encore une fois de plus.
Merci à vous.
Nous ouvrons cette page par cette nouvelle du 25 au 28 octobre dernier. Une délégation conjointe Union africaine, Bureau des Nations Unies en Afrique centrale était donc en visite à Dungu dans la province du Bas-Uele. Une visite a situé dans le cadre du programme Initiative de coopération régionale de l'Union africaine contre la LRA. Objectif donc de la mission, encore une fois, évaluer la menace posée par ce groupe armé en RDC, discuter des bonnes pratiques, notamment dans le domaine de réinsertion des victimes de la LRA, ainsi que du renforcement de la coopération entre les missions des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, au Soudan du Sud, le MINUS, et en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Volet santé, plus de 90 cas de choléra, dont 10 décès enregistrés dans la zone de santé de Kiabalo dans le Tanganyika pendant la période du 27 au 30 octobre 2016. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, près de 90% des cas donc, de cette épidémie proviennent de la localité de Kihanga et ses environs. Une situation consécutive au manque d'eau potable dans cette contrée. Et selon la source, l'ONG International Rescue Committee, IRC, devait donc planifier cette semaine des interventions d'urgence en eau, hygiène et assainissement à Kihanga, avec un appui à l'hôpital général de Kabalo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) a commencé mardi dernier l'éloignement de la frontière nord-est de la RDC des réfugiés sud-soudanais. Destination, le site de Biringi à Aru, dans la province de l'Ituri. Le Mag UN revient sur l'interview accordée à Radio Kapi par Andrea Kirchhoff à propos de cette opération. L'administrateur principal régional en charge de relations extérieures s'était entretenu avec Jean-Désiré Kanyama.
Et monsieur Andrea Kirchhoff, bonjour.
Bonjour.
Combien de réfugiés sud-soudanais sont concernés par cette opération de délocalisation?
Il y a environ 40 000 réfugiés sud-soudanais dans la zone frontalière en Ituri et en Ouele que le HCR est prêt à relocaliser à des sites suite à une décision des autorités congolaises.
Et comment se fait concrètement cette opération et quel est son objectif?
Bon, l'objectif est d'abord d'amener des réfugiés dans des endroits où ils peuvent être autosuffisants, dans trois sites qu'on a identifiés jusqu'à maintenant, et de un peu soutenir les localités frontalières, parce que là, il y a maintenant beaucoup de réfugiés. Dans certains endroits, il y a plus de réfugiés que des Congolais. Et ensuite, en ligne avec les obligations internationales, la RDC donne l'asile à des civils qui sont victimes de la guerre au Sud-Soudan. Donc, on cherche une option pour les soutenir pendant une période étendue. Aujourd'hui, on a commencé à transporter des réfugiés sud-soudanais au site de Biringi, qui se trouve en territoire de Aru, province d'Ituri.
Et pourquoi le HCR a mis beaucoup de temps pour commencer ce transfert? Autrement dit, qu'est-ce qui explique ce retard?
C'est pas vraiment un retard. Il y avait une discussion avec les autorités sur la meilleure façon de soutenir les réfugiés. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de faire des camps de réfugiés selon le modèle classique, parce qu'on sait que ça peut durer très longtemps. Il y a une besoin d'aide humanitaire constante. Il y a des problèmes de financer cet appui souvent. Donc, on pensait de pouvoir intégrer les réfugiés dans des communautés locales, mais c'est une question de d'afflux. On a vu depuis quelques mois que les chiffres de sud-soudanais, des réfugiés sud-soudanais en RDC, est monté à plus que le double de ce qu'il était. Notamment, on est vers 60 000 maintenant. Et suite à cela, les autorités ont dit que dans cette région frontalière, qui est aussi un peu volatile, on avait atteint la capacité et pour cela, on devait transférer les réfugiés à des sites.
Et il se pose également des sérieux problèmes sécuritaires et humanitaires. Et pour les réfugiés dans cette zone de l'Ituri, quelles sont les garanties pour les HCR quant à la protection de ces réfugiés?
D'abord, la première question est, est-ce qu'il y a un risque des combattants sud-soudanais qui se mélangeraient parmi ces réfugiés? Pour éviter cela, on fait un screening. Et il y a, proche au site de Biringi, il y aura les FARDC qui vont être présents. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'indication que ce risque se matérialise. Le deuxième risque est qu'il y a des groupes armés qui peuvent attaquer ces réfugiés, et notamment en Ouele vers Douma. On a vu qu'il y avait des attaques contre la population civile et contre les réfugiés. Il y a notamment eu des pillages de la nourriture qui avait été distribuée aux réfugiés. Et pour cela, on pense que dans des sites, il y a une meilleure façon aussi d'assurer la sécurité.
Et après ce transfert, qu'envisage le HCR pour appuyer d'abord cette opération, mais ensuite les réfugiés sud-soudanais dans les nouveaux sites d'installation?
D'abord, cette opération de transfert, on ne sait pas encore combien de temps ça va prendre, mais on pense que ça va prendre au moins jusqu'au début 2017. Et dans la mesure que les gens ils arrivent dans le site, on va les soutenir pour qu'ils construisent des abris et faire des aménager des sources d'eau. Mais dans le long terme, on espère que les réfugiés deviennent autosuffisants parce qu'il y a des possibilités d'agriculture et qu'ils utilisent les mêmes infrastructures en termes de santé, etc., que les communautés locales congolaises.
Oh, monsieur Andreas Christophe, avez-vous un dernier message pour terminer cet entretien?
Ce qu'on peut dire est que la RDC, comme avec les autres afflux de réfugiés, notamment le réfugié burundais et le réfugié car, a été très généreux. En suivant ses obligations internationales, en accueillant ces réfugiés. Et je pense qu'il est clair qu'il y a aussi un soutien de la communauté internationale pour aider à ces réfugiés.
Monsieur Andreas Christophe, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Cap Vert, Bouérémana, une localité située à environ 50 km à l'ouest de Goma, au nord Kivu. Plus de 1000 femmes, parmi lesquelles des déplacées, des survivantes des viols, bénéficiaires d'un appui de réinsertion socio-économique de l'ONU Femmes. Mercredi dernier, la représentante de cette agence onusienne s'est rendue à Bouérémana. Elle était accompagnée de la ministre nationale du genre. Reportage de Sifa Maguru.
Ces femmes qui ont été longtemps affectées par les conséquences des conflits armés, notamment l'afflux massif des déplacés dans leur milieu, la présence des militaires, la pauvreté et bien d'autres, saluent aujourd'hui ces projets d'autonomisation économique dont elles sont bénéficiaires.
Nous sommes très contentes, je ne sais pas comment les dire. Dans une saison de culture et sur 15 mètres carrés de maïs, je gagne 3 sacs pour lesquels on me donne $120. Et pour moi, c'est bénéfique car par an, je gagne $360. Les moussons nous aident lors de la récolte à faire des épargnes et nous recevons des crédits. La représentante de l'ONU Femmes en RDC, Awa Ndiaye Sek, tout comme la ministre du Genre, Lissi Kipele, se sont dites satisfaites du travail abattu par ces femmes paysannes, surtout qu'elles n'ont pas attendu de l'aide pour se mettre ensemble et commencer ce travail.
Je pense que nous avons vu des femmes déterminées et pour moi, ça c'est vraiment un motif non seulement de satisfaction mais d'encouragement.
Notez que Bouérémana reste jusque-là une zone de retour et de refuge après la fermeture de plusieurs camps de déplacés. Des retours de Bouérémana, Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche porte sur la liberté de la presse et la protection des journalistes. Suivez également la réponse de Madame Barbara Massaconi, coordinatrice de l'unité rapport et enquête spéciale du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Guillaume et RTMC de développement, après une dizaine d'années en RDC, comment la MONUSCO évalue-t-elle la situation des journalistes en RDC? La presse est-elle bâillonnée ou bien en mouvement?
Je ne peux pas parler sur une période de 10 ans. Ce qui est sûr, que les journalistes font partie d'une des catégories que nous suivons de très près, surtout dans une période préélectorale où certaines catégories, notamment les journalistes, les opposants politiques et la société civile, peuvent faire l'objet d'atteintes qui sont liées à la nature de leur travail. Donc, disons qu'on a on a encore des problèmes avec certains des journalistes qui sont arrêtés, notamment nationaux aussi bien qu'internationaux, arrêtés ou harcelés ou qui ont des problèmes pendant certaines journées particulières, notamment des manifestations politiques ou des activités de la société civile. Donc, je pense que je n'avancerai pas un bilan, mais je dirais que la catégorie est encore une des catégories qui est particulièrement ciblée pendant certaines périodes.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Jacques David, je suis officier de communication pour le PAM à Goma. Alors j'étudiais les sciences politiques et j'ai fait une formation complémentaire en production et animation radio, célibataire. Avant le PAM, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant plusieurs années et j'ai aussi travaillé en radio par la suite en Belgique et également à Kinshasa. Au PAM, je suis arrivé en septembre 2014. Alors, l'emploi journalier, c'est tout d'abord en tant que responsable officier à la communication. Il faut aller recueillir toutes sortes d'informations dans les différents médias tout d'abord, notamment Okapi, les autres médias nationaux, les médias internationaux, les réseaux sociaux, et puis aussi les différentes personnes avec qui je peux être en contact au niveau du Nord Kivu et qui nous ramènent aussi différentes informations. Donc à partir de ça, on a un petit peu le top de la journée au niveau média. Il y a tout ce qui est aussi les informations qui nous proviennent des autres agences des Nations Unies, au niveau plus information humanitaire, je dirais. Cette information, tant au niveau média qu'au niveau humanitaire, il faut la traiter, notamment pour tout ce qui est reporting. Une partie de mon travail consiste à faire du reporting également. Et puis, on fait une évaluation sur le type d'information par rapport à laquelle il faudrait éventuellement écrire, communiquer avec un communiqué de presse, avec une conférence de presse. Donc ça se déroule en gros un petit peu comme ça. Ah, mon temps libre. Eh bien, à Goma, on a la chance d'être juste au bord de ce magnifique lac Kivu. Donc j'apprécie énormément de pouvoir y plonger une petite tête le plus souvent possible. Parfois tous les jours je vais nager, ou parfois une fois par semaine, ça dépend un peu de la météo. Il pleut beaucoup ces temps-ci, donc c'est moins fréquent. Je vais faire du sport aussi, du jogging. Il y a un hôtel là tout au bout de la ville qui offre un parc où c'est très agréable d'aller faire du jogging. Et puis je prends quelques cours de percussion aussi. Ah, ça c'est une grande question. Moi je suis un grand amateur de musique congolaise en fait. Il y a un patrimoine musical qui est extrêmement riche, qui a commencé il y a bien longtemps. Moi j'aime beaucoup Zaïko Lingalinga par exemple. Dans les stars les plus récentes, on a aussi beaucoup de talent, des très bons chanteurs. Je pense à Ferregola, que j'ai eu l'occasion de voir une autre fois au hall de la Gombe. Je pense à Fally Ipupa évidemment aussi, et tous les autres en fait. Le pays est rempli de talent. On sent qu'il y a une tradition musicale très forte. Il y a aussi certains artistes qui essayent de faire une musique un petit peu différente également. Je pense à Jupiter et International Oquest, que j'aime beaucoup. Je pense au groupe aussi Konono numéro 1, qui fait une musique vraiment particulière aussi. Astar Benda Bilili, que j'aime beaucoup également. Bangwan Astar et tout cela, quoi. Donc il y a un vivier, il y a une richesse incroyable. Alors le sport, je suis un petit peu moins calé en sport, mais ce qui m'a frappé, c'était lorsque la RDC a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, là, j'étais à Goma, on avait voulu absolument assister aux différents matchs, et évidemment au match de la finale, et j'étais émerveillé de voir toute l'ambiance et la joie qui explosait dans les rues de Goma, et de voir toute la population qui était vraiment en liesse. Et pour ça, évidemment, on peut que féliciter et louer les exploits sportifs des Léopards. Alors moi, ce que j'aime le plus, comme j'ai la chance de voyager un tout petit peu, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a pu manger lors de nos quelques jours à Mbandaka. Il y avait du poisson un peu bouilli comme ça, qui était... Voilà, le liboké, exactement. Ça, c'est fantastique. À Goma, on a un peu plus du poisson frit, qui est bon aussi. Bon, on a le lac aussi juste à côté, donc ça aide pour le poisson de bonne qualité. Mais je pense que ce que je préfère, c'est le poulet à l'arachide. Je sais pas si c'est quoi, c'est de Kinshasa. Ou c'est de... Ah, c'est ça, moi j'aime beaucoup. J'ai toujours l'idée de mêler mon engagement humanitaire, auquel je tiens beaucoup, à ma passion pour les médias et pour la radio en particulier. Je pense que, en particulier en Afrique, la radio est vraiment un média qui touche énormément de monde, qui est très suivi et qui a aussi une sorte de relation de proximité très particulière avec les auditeurs. Et il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, je souhaiterais que dans mon avenir professionnel, je puisse mêler cet engagement humanitaire et la passion pour la radio. Et les gens avec qui je travaille, je sais, c'est toujours des passionnés dans la radio, et c'est un grand plaisir. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Stay tuned on Okapi, the one and only.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC,
chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Retenez ces dates. Le 10 novembre, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Et puis le 11 novembre, ce sera la visite en République démocratique du Congo d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce numéro du magazine des Nations Unies qui a été coordonné par Jean-Pierre et Nali Coco. Honoré Missenga était au reportage. Hippolyte Kapanga nous a assuré la mise en onde. Moi, c'est Tina Salama, j'étais à la présentation. Comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous. Vous pouvez réécouter cette émission en cliquant tout simplement sur www.radiocapi.net. On se dit donc rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission de notre magazine. Ciao, ciao.